d'abord, bon, l'histoire, la vigne et les vins, hein, puisqu'on est très attaché à la Bourgogne, on la connaît dans le monde entier par ses produits, hein, ses vins en particulier. Dans l'histoire de la Bourgogne, ce qu'il faut savoir, c'est que avant la vigne, on avait déjà créé le tonneau. Vous savez, les vins de Bourgogne sont vinifiés dans les fûts de chêne. Hein, ça, c'est la tradition, très ancienne. Et pourquoi ils ont été élevés dans les fûts de chêne? Tout simplement parce que bien avant l'installation de la vigne, les Celtes ont créé ces tonneaux pour en faire des conservateurs d'aliments. On n'avait pas de frigidaire à l'époque. Hein, pour conserver la viande, il fallait mettre la viande avec du sel. Ils ont comme ça créé ce tonneau. Et tout naturellement, quand la vigne s'est développée, et avec l'arrivée des Romains, quand le vignoble s'est complètement développé, eh bien les personnes, les Bourguignons, ont mis le vin dans le fût de chêne, alors que les Méditerranéens mettaient les vins dans les amphores, vous savez. Il y a même eu un texte, 1er siècle après Jésus-Christ, qui a dit « Interdiction d'utiliser le tonneau ». Parce que les amphores sur les routes cassaient. Nos tonneaux, ils résistaient. Et avec ça, ça crée une concurrence sur les vins méditerranéens. On a dit « Interdit ». Mais très vite après, on s'est rendu compte que les vins non élevés en fût de chêne, c'était plus exactement les vins de Bourgogne. Donc, on a déjà notre tradition. Comme ça. Mais ce qui a beaucoup également marqué la Bourgogne, et il y a par exemple dans nos vignobles, hein, il y a des noms de parcelles qui retracent toute l'histoire de notre Bourgogne. Ce qui a beaucoup marqué, c'est tout d'abord le duché de Bourgogne. Vous savez, le duc de Bourgogne était installé à Dijon. Et le duc de Bourgogne était propriétaire, dirigeait toute sa Bourgogne et son vignoble. Et il y a un texte. En 1394, la grande ordonnance de Philippe le Hardi, qui est présente toujours, hein, que l'on connaît bien, le duc de Bourgogne qui avait, plaisir à vraiment produire un vin de qualité, pas forcément de la quantité, mais qui a voulu un vin de qualité, a dit dans cette région, il faut arracher tous les cépages, sauf le pinot noir. Et vous voyez, le pinot noir, c'est un cépage, je ne dis pas unique au monde, mais tout à fait adapté à cette région. Le pinot noir, quand on le met en champagne, il existe en champagne. Mais le champagne, il a quelle couleur? Il est blanc. Parce qu'arrivé au nord, il n'a plus la couleur. Il ne donne plus la couleur au vin. Ce même cépage, plus au sud, quand on arrive déjà à Mâcon, quand on approche de Lyon, trop de chaleur, il manque vraiment d'acidité qui réveille bien ses arômes. Ça fait un vin complètement plat, qui n'a aucune valeur. Alors que déjà, à cette époque, les anciens avaient repéré que dans notre région, ce cépage était vraiment unique. Et le duc a dit, allez, vous arrachez tout, sauf le pinot noir. Il faut bien ce cépage. Il faut des vignes très serrées, très denses, des vignes basses. On a un vignoble, il faut aller visiter les vignes, hein, qui n'ont rien à voir, par exemple, avec les vignes dans le midi de la France. On a 10 000, 14 000 pieds à l'hectare dans notre région. Dans le midi, on est à 3 000 pieds par hectare. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en situation méditerranéenne, on n'a pas la lumière, on n'a pas la chaleur. Et avec ça, une vigne, si on lui confie une petite surface, elle va produire peu, mais elle va produire bon. Donc, il y avait déjà tout un texte comme ça, qui a plus de 600 ans, qui souhaitait bien relier le vin à la qualité. Mais ce qui a beaucoup aussi joué, disons, sur la qualité de nos vins, c'est les grandes abbayes. On avait tout au sud de la Bourgogne, hein, quand on est on descend en direction de Tournus et Mâcon, on a l'abbaye de Cluny, qui était une immense abbaye, hein, aussi des bâtiments aussi importants que Saint-Pierre de Rome actuellement, mais bien détruits à la fin du 19e siècle. Et les moines de Cluny, par exemple, avaient des vignes jusqu'à proximité de Dijon. Et on avait aussi dans notre région l'abbaye de Cîteaux. Les moines de Cîteaux qui se sont beaucoup attachés, là aussi, au vin. Pourquoi? Parce que le vin rouge, c'est une symbolique très forte dans l'Église chrétienne. Le vin rouge, c'est le sang du Christ. Or, notre pinot noir, notre cépage, qui donne de bons arômes, c'est un raisin rouge à jus blanc. Vous voyez, quand on presse comme ça, on prend une grappe, on la serre tout de suite, on la presse, le jus qui coule, c'est un vin blanc. C'est comme ça que le champagne, par exemple, est fait avec du pinot noir, mais il est parfaitement blanc. Et les moines se sont dit, mais comment, avec un raisin rouge, un jus blanc, faire un vrai vin rouge? Elles ont travaillé toute une démarche comme ça de vinification. Ils ont compris qu'il fallait laisser les peaux, la peau du raisin qui contient la couleur, il fallait la laisser quelque temps bien au contact du jus pour que le vin, petit à petit, extrait cette couleur et en fasse un vrai vin rouge. Et c'est comme ça que, à côté, tout près de notre grande ville, Dijon, les moines ont créé le Clos Vougeot avec une superbe cave. Vous voyez qu'il y avait des grandes cuves où on laissait le vin comme ça pendant 8-10 jours, en le remettant en suspension, en allant dans la cuve, repiger, ce qu'on a fait le pigeage, c'est-à-dire appuyer, parce que les peaux qui sont plus légères, hein, une plus faible densité, remontent tout le temps à la surface. Il faut les remettre vraiment en suspension. Et c'est comme ça que les moines, disons, ont trouvé cette méthode qui fait qu'avec ce cépage rouge à jus blanc, on fait un vrai vin rouge maintenant. Hein, vous voyez donc qu'il y a comme ça, depuis déjà plus de 1000 ans, il y a eu tout un travail, toute une recherche pour bien trouver les cépages, bien trouver des méthodes de vinification qui font que la réputation des grands vins de Bourgogne. Et ce que j'aimerais vous montrer, hein, c'est une carte. Une carte qui a été créée par l'école chrétienne de Dijon, hein, donc de notre grande ville, en 1878, donc avant même le phylloxéra, qui retrace tout notre vignoble, depuis Dijon, en passant par Nuit-Saint-Georges, Beaune, jusqu'à Chagny, donc c'est toute la Côte d'Or. Et vous voyez apparaître dans chaque commune des numéros avec un nom de parcelle. Alors je vais prendre sur Dijon, hein, on peut trouver comme ça les Perrières par exemple. Hein, à l'époque, on avait des vignes, hein, il y avait plus de 200 hectares de vignes sur la commune même de Dijon. Bon, avec l'extension de la ville, ces parcelles ont disparu. Mais on savait bien identifier des parcelles exactement au mètre carré. On savait exactement la surface. Sachant que le même raisin produit dans une parcelle, produit dans une autre parcelle à proximité, ne va pas donner exactement les mêmes vins. Et les anciens, ils avaient bien repéré comme ça tous les terroirs qui donnaient la qualité des vins. Et ils ont même su montrer que dans le bas de la plaine, parce que notre côte, hein, on a toute une côte, qui s'est créée à une époque, alors là ça remonte à des millions et des millions d'années, quand il y a eu le soulèvement des Alpes, ensuite le soulèvement du Jura, tout ce plateau calcaire, hein, qui s'étend jusqu'à dans la région parisienne, à un endroit s'est effondré. Et c'est d'ailleurs par cet effondrement que la Saône est venue s'installer comme ça dans notre plaine. Mais les vignes qui sont placées dans la plaine, hein, tout en bas de cette côte, elles trouvent en profondeur, tout naturellement, très facilement, de l'eau. Les mois de juillet, les mois d'août, elles vont pouvoir aller pomper facilement de l'eau. Par contre, elles sont dans un terrain plat, manquant de cailloux. Avec ça, nos cépages vont donner de la quantité, mais pas une grande qualité. Par contre, à l'inverse, alors maintenant on met les vignes qui sont en pleine côte. Un sol très caillouteux. Alors vous allez vous promener comme ça dans les vignes, vous allez voir des fossiles, des pierres qui captent la chaleur. Et comme c'est des vignes basses, ces vignes basses profitent du rayonnement pendant la nuit. Ces pierres qui reflètent la lumière. On n'est pas dans le midi de la France. Avoir plus de lumière, grâce à ces pierres blanches qui reflètent bien la lumière, ça apporte à la vigne. Mais la vigne qui, par exemple, au mois de juillet, au mois d'août, va manquer complètement d'eau. Avec ça, elle va produire peu. Mais un vin beaucoup plus concentré, beaucoup plus riche. Qui fait que, très rapidement, et on le voit déjà dans cette carte qui a plus de 100 ans maintenant, on avait repéré des zones où maintenant, sur notre étiquette, sur nos vins, on voit apparaître le mot Bourgogne. Il y a des zones où le vin produit donne le nom du village, d'autres, nom du village marqué premier cru, quelques parcelles, elles sont déjà repérées dans cette carte très ancienne, qui donne ce qu'on appelle les grands crus. Alors c'est quoi un grand cru? C'est un vin qui a une grande, grande richesse. Il va lui falloir souvent 5, 6 ans, 10 ans quelquefois, pour être vraiment très mûr, très bon. Mais ensuite, pendant 15 ans, 20 ans, il va vraiment régaler les personnes. Oui. Alors que les petits bourgognes, c'est des vins à consommer rapidement, agréables, mais qui ne peuvent pas comme ça se conserver pendant très longtemps. Voilà donc toute cette historique de la Bourgogne, très intéressante, et avec ces noms des parcelles, ces noms des villages, qui, je vous dis, hein, qui s'appuient comme ça sur une histoire de plus de 2000 ans maintenant. Et ce qu'il faudra, hein, c'est bien sûr qu'on puisse préserver comme ça toutes nos appellations, tous nos terroirs, hein, avec nos cépages. On a deux cépages en vin rouge. Donc le grand vin, c'est le Pinot Noir. Le Bourgogne, ça va se faire avec du Gamay. En blanc, on a le Chardonnay, qui donne, par exemple, le Pouligny-Montrachet, le Chassagne-Montrachet, le Meursault, des grandes appellations de blanc. Et puis à l'inverse, la Ligotée. Un vin blanc mais bien acide, qui par contre, alors ajouté avec du cassis, va vous faire un kir, comme le chanoine, vous savez, le chanoine kir, un grand chanoine de Dijon, hein, qui fait un apéritif vraiment très très agréable, parce que cette acidité réveille bien les arômes du cassis. Donc voilà pour l'historique. Alors bon, les choses ont encore bien évolué au cours des 50-60 dernières années, puisqu'on a eu une mécanisation dans les vignes, on n'a plus le cheval maintenant, on utilise du matériel. On a aussi bien amélioré les modes de vinification. Autrefois, les vins blancs, quelquefois, faisaient mal à la tête. Aujourd'hui, comme on maîtrise bien les températures, par exemple, eh bien, on a limité vraiment beaucoup les doses de SO2, ce soufre, si vous voulez, qui faisait mal à la tête. Et avec ça, maintenant, les gens se sont bien portés sur les vins blancs. Alors qu'il y a encore 30 ans, 40 ans, les vins blancs se vendaient beaucoup plus mal que les vins rouges. Reste donc, grâce à ces vignes, grâce à ce vin, à notre région, Bourgogne, et bien sûr notre ville de Dijon, a une réputation dans le monde entier. Puisque nos vins sont vendus dans le monde entier, hein, maintenant, même les Asiatiques, les Japonais achètent beaucoup, beaucoup de vins, hein, plus que d'alcool fort, parce qu'ils se sont rendus compte aussi ces dernières années que le vin rouge, en particulier, limitait les risques cardiovasculaires. Un consommateur, mais modéré, hein, 3 verres maximum par jour pour une personne qui a au moins 40 ans. En dessous de 40 ans, il ne faut pas trop boire de vin. Mais à partir de 40 ans, si on peut consommer comme ça 3 verres de vin rouge dans la journée, pas plus, on peut limiter à 40% les risques de maladies cardiovasculaires. Et vous voyez, les Japonais, hein, il y a 4 ans, ils ont découvert cette recherche grâce à notre institut là, de Dijon. Et avec ça, ils ont doublé très rapidement leurs achats de vin de Bourgogne. Et grâce, disons, à tout ce secteur de la vigne, du vin, hein, et de la commercialisation, on a bien des emplois dans notre région. Hein, ça emploie bien du monde. Vous voyez, une vigne en Bourgogne, un salarié, on utilise pour les vignes, par exemple, un salarié pour 5 hectares de vigne. Vous êtes dans d'autres régions de la France, on a un salarié pour 15 hectares. Parce qu'on a un mode de conduite, on a un mode de taille, avec ces vignes très basses. Complexe à mener, mais complexe pour faire de la qualité. Avec ça, il nous faut beaucoup plus de salariés. Et que c'est comme ça, par exemple, que le lycée viticole de Beaune, hein, qui prépare à tous les métiers, la vigne, le vin, commercialisation des vins, et également le métier de tonnelier. Il y a 2 écoles en Europe, uniquement, qui préparent à ce métier très particulier. Et bien tous ces jeunes qui sortent, qui ne sont pas fils de viticulteurs, parce que les fils de viticulteurs s'installent. Tous les autres jeunes qui sortent, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, qui maîtrisent bien la technique, la scientifique pour certains, ou les langues étrangères. Quand on veut commercialiser nos vins dans le monde entier, il faut bien maîtriser la communication, les langues étrangères. Et bien toutes ces personnes trouvent très très facilement un emploi. Donc c'est une chance un peu pour dans notre région. Hein, mais ce qu'il faut, c'est qu'on préserve bien nos terroirs, nos appellations, cette qualité des vins, hein, tout en maîtrisant bien, vous voyez, par exemple, les problèmes d'environnement, bien limiter les traitements, hein, il faut aller protéger la vigne lorsqu'elle présente vraiment des risques, mais pas trop traiter, hein, juste mettre quand elle peut comme ça être pénalisée, comme elle l'avait été à une époque par le phylloxéra. Hein, il faut qu'elle soit préservée. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, toute cette région reliée à la vigne et au vin. Et en plus du lycée qui prépare tous ces jeunes, à la fois par la formation scolaire, par des apprentis, par également des formations adultes, on a sur Dijon l'université qui prépare ensuite la licence de la vigne, donc des personnes qui vont vraiment maîtriser complètement les techniques de la production viticole, depuis la plantation jusqu'à la production du raisin. Et puis il y a également le diplôme national d'œnologue. Hein, c'est-à-dire que les grandes entreprises, les grands négoces, emploient des œnologues qui vont comme ça bien suivre toutes les étapes, depuis la vendange jusqu'à la mise en bouteille. Au niveau de la vinification, pour là encore avoir la qualité, la bonne qualité des vins. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre région viticole.